Europe Midi, Fabienne Lemoelle.
Midi 30, bienvenue dans le journal de la mi-journée.
J'entends bien grand bruit. La vitre du magasin, ça a éclaté. On se demandait ce qui se passait, on a cru que c'était une bombe.
Au moins 2 blessés et 1 personne portée disparue après une explosion accidentelle ce matin dans le centre de Bordeaux. Explosion vraisemblablement due au gaz. L'heure est à la décrue dans la région de Marmande. Nous serons avec les habitants qui constatent les dégâts alors que l'état de catastrophe naturelle va être décrété. Le début ce week-end des injections du 3e vaccin, l'AstraZeneca, plus facile à utiliser car il se conserve au frigo, mais moins efficace pour les personnes âgées. Vaccination dès demain au compte-gouttes de 100 soignants à l'hôpital de Lille. Est-ce que cela va suffire à gagner la course contre le variant? Plusieurs médecins s'alarment des mesures pas assez contraignantes pour freiner l'épidémie. La professeure Odile Lenay, spécialiste des maladies infectieuses, membre du comité vaccin Covid-19, est mon invitée. 6 jours que l'armée a pris le pouvoir en Birmanie en assignant à résidence Aung San Suu Kyi, plus 1 millier de personnes ont manifesté ce matin dans les rues de Rangoon. L'actualité sportive avec le coup d'envoi du tournoi des 6 nations et le 15 de France favori, nous dira Simon Rubin face à l'Italie cet après-midi à Rome. La météo avec encore de la pluie cet après-midi, nous dira Valérie Darmon. Et puis vous le savez, à 13h, on prolonge cette tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Je vous emmène en balade au cœur de la forêt normande à la recherche des chênes centenaires qui vont servir à reconstruire la flèche de Notre-Dame. Nous reviendrons aussi sur l'onde de choc du témoignage de la comédienne Stéphanie Bataille, privée de visite à l'hôpital pour voir son père mort du Covid.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et donc pour commencer ce journal, cette explosion ce matin en plein centre de Bordeaux, une explosion vraisemblablement due au gaz qui a fait au moins 2 blessés. Une personne est toujours portée disparue et c'est un quartier sous le choc, Laura Touchanoff.
Exactement, ça s'est passé dans le quartier des Chartrons. Vers 8h ce matin, une forte explosion retentit au rez-de-chaussée d'un petit immeuble. Au niveau d'un garage, à quelques mètres de là, Martine vient tout juste d'ouvrir sa boucherie quand sa vitrine est complètement soufflée.
J'entends bien grand bruit. La vitre du magasin, ça a éclaté. Il y en avait plein dans les plats dedans. Il y avait un client qui était pas loin de la vitre, d'ailleurs. On se demandait ce qui se passait. On a cru que c'était une bombe. Puis, quand on est sorti, on a vu que c'était tout noir. On a vu plein de bois par terre. On est bien embêté, mais bon, on n'a rien. On n'a pas été blessé. C'est que des dégâts matériels.
L'immeuble où a eu lieu l'explosion s'est effondré. Le propriétaire du garage, un homme de 89 ans, a immédiatement été amené à l'hôpital. Il est en urgence absolue. Les recherches des secours se poursuivent, explique Delphine Belsa. C'est la directrice du cabinet de la préfète de Gironde, interrogée ce matin par Stéphane Place.
Nous sommes à la recherche de la compagne de ce monsieur de 89 ans qui est à l'hôpital, qui est donc sous les décombres. Une équipe cynophile est sur place et c'est vraiment notre priorité actuelle. La rue Bory est une rue étroite et donc nécessite des moyens de secours particuliers pour pouvoir sécuriser le site et notamment les 2 immeubles mitoyens qui ont été très abîmés par l'explosion.
Au total, 70 pompiers sont mobilisés. Les forces de l'ordre ont complètement bouclé le secteur. Pour l'instant, la piste accidentelle est privilégiée, celle d'une fuite de gaz, mais l'enquête le confirmera dans les prochaines heures.
Laura Touchanoff, encore de la pluie cet après-midi, va nous dire dans quelques minutes Valérie Darmon, ce qui n'est vraiment pas une bonne nouvelle sur le front des inondations. Hier, Jean Castex était à Marmande, où la Garonne a débordé, pour annoncer que l'état de catastrophe naturelle allait être décrété. À Marmande, où pour l'instant, l'heure est à la décrue et à la découverte, Stéphane Place, des dégâts pour les habitants.
Oui, et en se retirant, l'eau laisse entrevoir l'ampleur des dégâts encore ce week-end dans le secteur de Marmande. De nombreux sinistrés ne peuvent se rendre jusqu'à leur maison inondée qu'en empruntant une barque. Cette crue exceptionnelle a obligé certains à quitter leur habitation pour un relogement d'autant plus nécessaire qu'il va falloir un peu de temps pour tout remettre en ordre et rentrer chez soi.
En l'espace de 4-5 heures, il a fallu partir du domicile par les pompiers. Ma maison est quand même sous 20 cm d'eau, donc j'ai tout mon salon, ma cuisine sous l'eau. Là, ça va se facturer en plusieurs milliers d'euros.
Ça descend très très lentement et a priori, on aura de l'eau jusqu'au moins lundi, quoi. Là où on est, il faut y aller en bateau encore. On avait monté 50-60 cm tout en bas, mais 1m50, on n'imaginait jamais.
Beaucoup d'entraide et de solidarité avec l'aide des voisins, des copains, des proches, des employés municipaux aussi qui viennent donner un coup de main, déblayer, sortir les affaires couvertes de boue, le canapé ou encore le congélateur noyé. Les pompiers du Lot-et-Garonne restent également mobilisés ce week-end. Le lieutenant-colonel Jean-Christophe Mazas.
Il y a du travail à faire encore ce week-end, que ce soit en termes de pompage, en termes de nettoyage, en termes de dégagement des voies publiques. Et on va garder le même type de moyens parce qu'en fait, il y a encore des casiers qui sont pleins d'eau. Pour aller sur certaines habitations, il nous faut des bateaux. Donc en fait, on garde des moyens nautiques et on garde des moyens de nettoyage.
Quant aux indemnisations, hier, le Premier ministre a promis que les déclarations d'état de catastrophe naturelle seront instruites avec diligence.
Stéphane Blas à Marmande pour Europe 1.
Fabienne Lemoelle vous informe sur Europe 1.
Et c'est donc ce week-end que doivent commencer les vaccinations avec le troisième vaccin, l'AstraZeneca, plus facile à utiliser car il se garde au frigo, mais pas efficace sur les plus âgés puisqu'il ne sera administré que sur les moins de 65 ans en France. Vaccination au compte-gouttes avec d'abord les soignants. À Lille, les premières doses doivent arriver cet après-midi au CHU. Objectif, vacciner dès demain 100 soignants. Et vous allez l'entendre, François-René Prouveau, président de la commission médicale du CHU de Lille, est soulagé.
Pour nous, c'est une très grande chance. Pour tous nos hospitaliers, c'est la possibilité, même en dessous de 50 ans, d'être vaccinés, puisque le Pfizer était limité à ceux de plus de 50 ans. Il y a, vous savez, ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire des petits foyers épidémiques qu'on aimerait éviter parce qu'ils sont stratégiques. Ils peuvent imposer, si ce n'est de fermer une activité, de la gêner considérablement. En plus, ça va diminuer la tension, le stress, l'angoisse qu'avaient certains soignants de ne pas être vaccinés parce que très jeunes, 40, 50 ans, alors qu'ils sont potentiellement en contact de malades Covid ou que certains collègues, effectivement, ont un Covid qui se déclare, qui n'était pas connu. Donc, la contamination existe et donc ça va rassurer tout le monde.
Le président de la commission médicale du CHU de Lille qui répondait à Damien Mestre. Alors, est-ce que ce troisième vaccin, c'est une nouvelle arme pour contrer la progression du variant ? On posera la question au professeur Odile Lenay, spécialiste des maladies infectieuses, membre du comité vaccin Covid-19. Elle est mon invitée dans une dizaine de minutes. C'est donc le début aussi des vacances de février. Pas de reconfinement donc, et on peut circuler entre les régions. Certains, malgré des remontées mécaniques à l'arrêt, ont tout de même choisi la montagne. Jean-Luc Bougeon.
2021 sera bien un cru exceptionnel en montagne, mais malheureusement dans le mauvais sens du terme. Les derniers chiffres montrent que le niveau des réservations sera certes supérieur à Noël, mais très loin du niveau habituel de février, explique Jean-Luc Bock, président de l'association des maires de stations de montagne.
Sur les vacances de février, en règle générale, on est plutôt vers les 80-90%, voire un petit peu plus pour les stations. Et aujourd'hui, on a une moyenne à un peu plus de 38%. Donc on est en fort recul.
Il y aura quand même des vacanciers à la neige, et pour les grandes stations, le défi, c'est de remplacer le ski alpin par la raquette, le ski de fond ou de randonnée. Pas évident, admet Yannick Mazocchi du magasin de location Skimium au Saisy en Savoie.
Tout le monde veut louer du matériel, de ski de fond, de ski de randonnée, mais le problème, moi de ski de fond en tout, j'ai moins de 300 paires disponibles. Et en ski de randonnée, j'ai 42 équipements, mais là, il m'en faudrait 420. Oui. Notre poumon économique, c'est la location de ski alpin. Mais là, on n'a pas la même rentabilité, donc on va faire plein d'heures, et au final, pour avoir une perte qui est conséquente, je pense finir autour de moins 35 au mois de février.
Une situation financière très difficile pour les professionnels qui malgré tout gardent le secret et tout petit espoir de pouvoir rouvrir les remontées mécaniques en mars ou en avril en fin de saison, histoire de sauver les meubles. Lyon, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Europe Midi, Fabienne Lemoelle.
Dans un instant, 20 ans de prison pour le beau-père du petit Tony, mort après un calvaire d'une semaine sous les coups de cet homme. 4 ans, dont un avec sursis pour sa mère. Un verdict plus clément que les réquisitions du procureur.
Europe Midi, Fabienne Lemoelle.
Et c'est donc après plus de 5 heures de délibérés que les jurés ont rendu leur verdict dans le procès du calvaire du petit Tony à Reims aux assises de la Marne. 4 ans de prison, dont un avec sursis pour sa mère, pour ne pas avoir dénoncé les coups que portait régulièrement son compagnon sur l'enfant de 3 ans. 20 ans de prison pour son beau-père Loïc Vintal qui l'a roué de coups quand le procureur réclamait 30 ans. Qu'est-ce qui explique ce verdict, Marion Dubreuil ?
Loïc Vintal, 28 ans, a été le premier surpris par ce verdict. Il est apparu soulagé dans le box des accusés, car pendant les débats, l'ex-beau-père de Tony a tour été décrit comme un monstre, un bourreau, capable de projeter Tony sur un meuble par la violence de ses coups, sans émotion face à la souffrance et les pleurs du petit garçon de 3 ans. Sa propre mère n'est pas parvenue à lui trouver une seule qualité. L'avocat général avait requis 30 ans de prison contre lui, mais l'accusé a reconnu les faits. Il a su formuler des regrets, présenter des excuses. J'oublierai jamais le petit Tony, ont été ses derniers mots à la barre. Son avocat, David Scribe, avait demandé à la cour de croire à la lumière au bout du tunnel.
Je pense qu'ils ont tenu compte de l'humanité de M. Vintal. C'est quelqu'un qui est capable de comprendre les choses, qui est capable de se remettre en cause et qui peut évoluer dans le temps, que véritablement il ressentait des émotions même s'il ne les exprimait pas. Parce qu'il a enfin compris, ce n'est que le début, ça continuera, mais il a enfin compris qu'il avait fait quelque chose d'extrêmement dramatique.
Ce verdict a semblé trop clément à la famille paternelle de Tony qui espérait la peine maximale pénale, une sanction à la hauteur de leur souffrance. Mais le père et la grand-mère du petit garçon peuvent désormais tourner la page, nous a confié leur avocat, et enfin faire le deuil de Tony.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Une marche blanche en ce moment en mémoire de la jeune femme DRH tuée près de Colmar par un ancien ingénieur au chômage. 500 personnes, rose blanche à la main, à Orgevire, alors que viennent de se dérouler les obsèques de cette mère de famille de 39 ans. À l'étranger, il y a 6 jours, l'armée birmane a signé à résidence la dirigeante Aung San Suu Kyi et prenait le pouvoir. Coup d'État dénoncé par la plupart des grands pays occidentaux. La répression a continué toute la semaine dans tout le pays avec l'arrestation de proches de la prix Nobel de la paix. Effet rare ce matin, Jean-Sébastien Soldaini, des manifestations ont eu lieu dans les rues de Rangoon.
Manifestations portées par de jeunes Birmans qui défilent avec des casques de chantier blancs sur la tête, main levée, faisant le salut à trois doigts. Geste de résistance au Myanmar et criant « Abat la dictature militaire !» 3000 personnes environ qui passent parfois sous les applaudissements de Birmans installés sur leur balcon. Ce sont les quelques images qui nous parviennent sorties clandestinement car les autorités ont coupé Internet dans la nuit. Elles prétextent la circulation de fausses informations qui menacent la sécurité du pays. Aucune communication n'est possible, mais a priori, il n'y a pas d'affrontement entre manifestants et forces de l'ordre. Des sit-ins sont aussi organisés à Mandalay, autre grande ville du pays. Il signe peut-être que ce mouvement de contestation peut s'étendre à mesure que la répression s'accentue. Ce matin, il y a même eu la première arrestation d'une personnalité étrangère, un Australien, Sean Turnell, conseiller économique d'Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi, dont les proches tentent de s'organiser, ce qui ne sont pas aux arrêts ou assignés à résidence, mettent en place une sorte de parlement parallèle. Il serait près de 300 députés à s'être réunis dans une session clandestine et virtuelle pendant que le Conseil de sécurité de l'ONU tarde à condamner ce putsch. La Russie et surtout la Chine bloquent. Pékin avait notamment protégé le régime en plein massacre des musulmans Rohingyas.
Jean-Sébastien Soldaini. L'actualité sportive avec le coup d'envoi du tournoi Destination. Le 15 de France est à Rome pour affronter cet après-midi l'Italie dans un stade vide pour cause de pandémie. Et pas de gros suspense, Simon Rubin, les Bleus sont clairement favoris.
Ah oui, c'est sûr, hein, il faut dire qu'il est difficile de ne pas être favori contre cette équipe italienne qui détient le triste record de 27 défaites consécutives dans le tournoi. Voilà pourquoi cet après-midi, hein, les Bleus ne devrait pas être inquiété. Charles Olivon l'a dit, il n'y aura pas de surprise. Cette équipe italienne, les Bleus, la connaissent par cœur. Elle a du panache souvent en début de match, mais elle craque en général à l'heure de jeu. Le capitaine des Bleus a toutefois souhaité aussi tempérer l'assurance de ses troupes.
Alors oui, il y a de la confiance. Après, on n'oublie pas d'où on vient. Je me rappelle encore quand on attaquait le dernier tournoi. On entendait beaucoup qu'on avait peu de sélection, peu de vécu commun, peu de maturité. Donc j'ai vraiment confiance en tout le groupe pour ne pas oublier ces choses-là. Donc voilà, maintenant, on a aussi à cœur d'aller encore plus loin. Donc on reste focus sur la compète.
Gagner le tournoi, les Bleus, deuxième l'an passé, ne cachent plus tellement leur ambition. Et cette nouvelle histoire commence donc ici, à Rome, sous un éclatant soleil d'hiver, le 15 de France, qui aura la charge de gagner, bien sûr, mais surtout de marquer un maximum d'essais pour tout de suite envoyer un message à la concurrence.
Et donc, c'est sous ce soleil d'hiver que sera donné le coup d'envoi à 15h15, avec au commentaire, bien sûr, Simon Rubin. En voile, un nouvel arrivé au Sable d'Olonne, en 13e position, Jérémy Beyou, qui avait fait tout de même demi-tour, 9 jours de retard au compteur avant de repartir pour ce Tour du Monde, lui qui était au départ l'un des favoris. Il nous reste à voir le temps que nous réserve ce samedi, encore de la pluie cet après-midi, ce qui n'arrange pas la situation sur le front des inondations, Valérie Darmon.
Effectivement, Fabiana, entre le sud-ouest, le Val-de-Loire, le bassin parisien, elles étaient faibles ce matin, elles vont se renforcer ces pluies et devenir plus soutenues, accompagnées de vents forts du golfe de Gascogne au nord de la Nouvelle-Aquitaine en se dirigeant vers la Loire. Et elles vont donner des intensités moyennes de 2 à 5 mm par heure, voire plus localement, ce qui ne va pas arranger évidemment les crues. Sur les 9 départements déjà en vigilance, les Landes, Charente, Nord, Maine-et-Loire, Saône-et-Loire, le bassin versant de la Charente est le plus préoccupant en raison des niveaux actuels très élevés et des pluies donc qui vont se produire encore. C'est seulement demain matin que ces pluies vont cesser, même si quelques averses vont rester encore possibles ce dimanche un petit peu partout. Régions les plus privilégiées, tout de même, on en parle aujourd'hui, c'est la pointe bretonne, la basse Normandie, l'extrême sud-est, malgré le vent qui souffle fort. Et puis un mot des températures à l'image du ciel, très contrastées avec des valeurs cet après-midi entre 8 à Dunkerque, jusqu'à 21 sur l'île de Beauté.
Merci beaucoup Valérie Darmon.
Europe Midi.
Fabienne Lemoyle.
À suivre, on le disait, c'est donc ce week-end que commence la vaccination en France avec un troisième vaccin, l'AstraZeneca. Est-ce que cela va suffire à gagner la course contre le variant ? Plusieurs médecins s'alarment des mesures pas assez contraignantes pour freiner l'épidémie. On va poser la question dans un instant à une actrice éclairée de cette crise sanitaire, la professeure Odile Lenay, spécialiste des maladies infectieuses, membre du comité vaccin Covid-19, coordinatrice du centre de vaccinologie Cochin-Pasteur à Paris.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Fabienne Lemoyle.
12h48 sur Europe 1, et on le disait, c'est à partir de ce week-end qu'on commence à vacciner en France avec un troisième vaccin, l'AstraZeneca. D'abord les soignants à l'hôpital, comme à Lille, et dans les semaines qui viennent en pharmacie, car ce vaccin a l'avantage de se conserver dans un simple frigo. Bonjour professeur Odile Lenay.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce midi sur Europe 1. Je le disais, actrice éclairée de cette crise sanitaire, spécialiste des maladies infectieuses, membre du comité vaccin Covid-19, coordinatrice du centre de vaccinologie Cochin-Pasteur à Paris. Avant de revenir avec vous sur les atouts de ce troisième vaccin, mais aussi peut-être ses limites, puisque les Espagnols ont recommandé de ne pas l'injecter aux plus de 55 ans, quand en France c'est aux plus de 65 ans. Déjà un point sur l'épidémie en cours. Un de vos collègues de la PHTB, le professeur Dominique Rioux, prédit du sang, des larmes, si on ne fait rien de plus. Est-ce que vous partagez son inquiétude ?
Alors, on est tous inquiets, bien sûr, sur la circulation du virus qui circule avec une intensité qui est importante, qui est dans un plateau depuis maintenant plusieurs semaines, avec plutôt une tendance à une augmentation du nombre de cas, et qui, pour l'instant, semble relativement stable, mais qui demande que les Français respectent les mesures de couvre-feu qui ont été mises en place si on veut réussir à éviter le confinement. Donc, l'avis du professeur Rioux est un avis d'un urgentiste, hein, de quelqu'un qui est responsable de la cellule de crise de la PHP et qui est confronté à une augmentation depuis maintenant quelques jours du nombre d'hospitalisations. Ça augmente peut-être un peu moins rapidement que ce qu'on a vu lors des deux vagues précédentes, mais ça augmente. Et encore une fois, si on n'est pas vraiment très vigilant et si on ne respecte pas les mesures en place, on va être de nouveau confronté à une vague importante.
Alors justement, professeur Odile Lenay, semaine après semaine, le variant anglais gagne du terrain, 3% des contaminations au début du mois. On dit 20% en Île-de-France aujourd'hui, peut-être même plus si vous avez de nouveaux chiffres. Est-ce qu'on peut gagner la course contre la montre sans des mesures plus strictes ?
Alors, ce nouveau variant, c'est donc un variant qui a été d'abord identifié au Royaume-Uni, pour lequel on sait que la transmission est plus importante, de l'ordre d'une fois et demie. Donc, le risque, c'est une transmission sur un nombre de personnes plus important, c'est ça aussi qui nous inquiète. Et là encore, la seule façon qu'on ait aujourd'hui d'éviter un nouveau confinement, si on peut le faire, c'est vraiment de respecter les règles qui sont en mesure et d'éviter au maximum d'être trop proches les uns les autres et d'avoir finalement des contacts avec trop de personnes. Donc, c'est encore une fois, on est inquiet par rapport à ça. C'est pas un virus qui est plus dangereux, mais qui est beaucoup plus transmissible.
Ça, donc les Français doivent. Vous le constatez, vous, effectivement, ce variant anglais, de plus en plus présent, accélère le nombre de contaminations.
Alors pour l'instant, le nombre de contaminations reste relativement stable, mais il faut être vigilant parce que c'est évident qu'elles vont augmenter si on n'arrive pas à la fois à respecter les mesures barrières qui sont recommandées aujourd'hui, si on n'arrive pas à tracer les cas, à les isoler, à tracer les contacts des cas, on aura une augmentation du nombre de cas qui va rendre quasiment obligatoire le confinement si ça se passe. Et on sait que ce variant, parce qu'il est plus transmissible, va de toute façon, quoi qu'il arrive, remplacer le virus qui circulait jusqu'à présent.
Alors, je vous entends, professeur Odile Lenay, nous dire qu'il faut bien respecter les mesures barrières. Vous avez aussi écrit dans une tribune publiée dans Libération, dit qu'il faut que les plus vulnérables, donc les plus âgés, se confinent le temps qu'on puisse les vacciner. Pour vous, il en va de l'avenir de la jeunesse, car les besoins ne sont pas les mêmes à tous les âges de la vie.
Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, hein, c'est que les personnes qui sont hospitalisées, donc qui font des formes graves, hospitalisées ou hospitalisées en réanimation, sont dans la quasi-majorité des cas, des gens qui ont des facteurs de susceptibilité à cette infection. Alors, on sait qu'ils ont déjà fait très attention, qu'ils ont beaucoup restreint les personnes qu'ils voient, qu'ils sont très, très, très prudents. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'on a des vaccins maintenant, qu'on a des vaccins qui permettent de protéger. Donc, on a administré en priorité à ces personnes les plus fragiles. Donc, il reste encore à attendre l'efficacité de ces vaccins, puisqu'il faut être vacciné avec deux doses de vaccins pour être protégé. Donc, l'objectif, c'est de se dire que peut-être c'est une période maintenant qui est relativement limitée et que ça permet justement, alors soit d'éviter ce confinement, soit en tous les cas, si on est obligé de reconfiner, ce qui est possiblement le cas, de pouvoir, à l'issue du confinement, garder un auto-confinement ou en tous les cas des mesures plus strictes pour les personnes les plus fragiles en attendant qu'elles soient vaccinées.
C'est-à-dire, pour être concret, Odile Lenay, qu'est-ce que vous demandez justement au nom de cette jeunesse qui a le sentiment aujourd'hui d'être sacrifiée, qu'est-ce que vous demandez aux plus vulnérables, aux plus âgés, de s'auto-confiner, de rester chez eux plus?
En fait, on sait aujourd'hui que la transmission se fait essentiellement au moment des réunions ou amicales, ou familiales, ou sociales. Donc, on sait que c'est extrêmement difficile de rester complètement isolé. Donc, ce qu'on envisage, en tous les cas, mais encore une fois, les gens le font déjà, mais c'est de continuer à respecter ces mesures qui maintenant sont en place depuis presque un an. Donc, on voit bien que c'est extrêmement difficile pour les gens qui sont seuls, pour les gens qui sont âgés, de pouvoir les respecter. Mais par contre, je crois que cet effort doit être poursuivi le temps qu'on arrive à vacciner une très grande proportion de la population française pour limiter au maximum cette infection et pour permettre quand même d'avoir une vie, en particulier pour les plus jeunes, de leur permettre de retourner à l'université. J'ai vu aujourd'hui qu'ils allaient pouvoir retourner au Resto U et on voit bien aussi que cette tranche de la population qui est peu touchée par ce virus, en tous les cas par ces formes graves, souffre énormément de la situation actuelle.
Vous dites même, dans cette même tribune, les jeunes générations, pour elles, la vie sous cloche n'est plus possible. Vous êtes inquiète pour eux ?
On voit, nous, au niveau des étudiants, que c'est extrêmement difficile de vivre seul, d'être en cours par visioconférence, parfois plusieurs heures par jour, de n'avoir finalement pas de possibilité de se retrouver avec les plus jeunes. Donc c'est pour eux des efforts qui sont assez importants, qu'ils ont acceptés hein, et qu'ils respectent maintenant depuis bientôt un an, mais qui, si ça doit persister, vont avoir quand même un effet négatif sur ces plus jeunes, sur leur construction, sur leur possibilité de se projeter dans l'avenir. Donc oui, je pense qu'on est tous inquiets par rapport à ces jeunes et nous, en tant qu'enseignants vis-à-vis des étudiants, on voit bien la difficulté dans laquelle ils sont aujourd'hui.
Je termine avec ça, professeur Odile Lenay, parce que j'entends votre réserve hein, par rapport aux mots que vous lisez dans la tribune. Il n'y a pas l'idée pour vous, évidemment, d'opposer deux générations, mais il y a la nécessité d'une solidarité entre les plus âgés qui pourraient un temps rester un peu plus à la maison pour que les jeunes puissent retrouver une certaine liberté, c'est ça ?
Encore une fois, je pense que les gens plus âgés et plus fragiles ont déjà fait énormément d'efforts, mais comme on l'a entendu, le télétravail est peut-être encore pas suffisamment appliqué les contaminations peuvent se faire à ce moment-là. Il faut rappeler que la transmission, les cas sont observés essentiellement lors de repas pris en famille. Hein. C'est probablement à ce moment-là que le risque est le plus important. Donc, encore une fois, on comprend que c'est difficile, cette période est difficile pour tout le monde, mais je crois que là maintenant, avec le vaccin, on voit quand même une sortie de cette période et donc on demande à ce que les plus fragiles puissent poursuivre en fait leurs efforts le temps que ce virus puisse être contrôlé par la vaccination. Et je ne dis pas qu'il faut reprendre une vie complètement normale pour les autres, hein, bien sûr, ce n'est pas du tout la question. Mais en tous les cas, voir comment on peut permettre aux étudiants en particulier de revenir à l'université, de pouvoir prendre leur repas au restaurant universitaire, en tous les cas, qu'ils puissent avoir à nouveau une vie sociale qui à cet âge-là est vraiment particulièrement important. Mais on sait que les jeunes sont très respectueux des plus anciens et tous les jeunes qui ont des grands-parents sont tout à fait inquiets et respectent cette problématique. Donc c'est pas du tout, je pense pas que ça soit du tout une opposition de génération.
Une dernière courte question, ce troisième vaccin qui a des limites sur l'efficacité pour les plus âgés, c'est la bonne réponse justement ?
Alors ce troisième vaccin, il est probablement, et on a des données qui nous montrent qu'il est moins efficace que les deux premiers vaccins qu'on a eus, ces vaccins ARN qui ont une efficacité très élevée, mais ils vont permettre de vacciner un beaucoup plus grand nombre de personnes, d'une part parce qu'on va avoir plus de doses, et d'autre part parce que ce sont des vaccins qui se conservent au frigidaire, donc qui vont permettre d'être beaucoup plus accessibles et poser beaucoup moins de problèmes de logistique. Donc en raison de données encore insuffisantes sur l'efficacité de ces vaccins à partir de 65 ans, les autorités de santé ont réservé cette vaccination aux moins de 65 ans, en commençant, comme vous l'avez dit, par les soignants. Puisque les soignants doivent être protégés, ça c'est un point extrêmement important. Et puis très rapidement, on va pouvoir vacciner les personnes de moins de 65 ans, en priorisant ceux qui ont des comorbidités, c'est-à-dire des facteurs de risque de forme sévère. Donc ça va augmenter de façon importante l'accès à la vaccination et la protection.
Merci beaucoup, professeur Odile Donnet, d'avoir été avec nous sur Europe 1, 12h, presque 59 minutes, dans un instant tout terrain.